Vous écoutez France Culture.
Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature, 1903-2010. 1993, Toni Morrison.
Toni Morrison,
née à Lorraine, Ohio, États-Unis, en 1931. Langue, anglais.
Née dans une famille d'ouvriers noirs américains, elle enseigne la littérature dans différentes universités, dont l'université Howard, surnommée Black Harvard en raison de la fréquentation majoritairement noire américaine de ses étudiants.
Éditrice, elle a contribué au développement de la littérature noire. Elle est à ce jour la seule femme afro-américaine lauréate du prix Nobel.
Once upon a time,
il était une fois une vieille femme, aveugle mais sage. Ou était-ce un vieil homme, un gourou peut-être, ou bien un griot calmant des enfants agités. Cette histoire, ou une version très proche de cette histoire, se rencontre dans le folklore de plusieurs cultures. Il était une fois une vieille femme, aveugle mais sage. Dans la version que je connais, la femme, fille d'esclave, est noire, américaine, et vit seule dans une petite maison en dehors de la ville. Sa réputation de sagesse est absolument incontestée. Pour les siens, elle est la loi aussi bien que la transgression de la loi. Les égards dont on l'entoure, la crainte respectueuse qu'elle inspire s'étendent bien au-delà de son voisinage, jusqu'à la ville où les vues des prophètes rustiques suscitent bien des railleries. Un jour, la femme reçoit la visite de gamins bien décidés à prendre en défaut sa prétendue clairvoyance et à démasquer l'imposture dont il la croit coupable. Leur plan est simple. Entrer chez elle et lui poser l'unique question dont la réponse dépend exclusivement de sa différence, infirmité à leurs yeux rédhibitoire, sa cécité. Ils se tiennent donc devant elle et l'un d'eux lui dit « Vieille femme, je tiens un oiseau dans ma main. Dis-moi s'il est vivant ou mort. » Elle ne répond pas. On lui répète la question. « L'oiseau que je tiens, est-il vivant ou mort ?» Elle ne répond toujours pas. Aveugle, elle ne voit pas ses visiteurs, encore moins ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Elle ne sait rien de la couleur de leur peau, de leur sexe, de leur pays d'origine. Elle ne connaît que leur motivation. Le silence de la vieille femme s'éternise tant que les garnements ont peine à retenir leur rire. Elle finit par prendre la parole. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix douce mais sévère. « Non, je ne sais pas si l'oiseau que vous tenez est mort ou vivant. Tout ce que je sais, c'est qu'il est entre vos mains. Oui, il est entre vos mains. » Sa réponse peut être interprétée ainsi. À supposer que l'oiseau soit mort, ou bien vous l'avez trouvé dans cet état, ou bien vous l'avez tué. S'il est vivant, vous avez toujours la possibilité de le tuer. Doit-il rester en vie? La décision vous appartient. Quoi qu'il en soit, vous êtes responsable. Pour s'être targué de leur pouvoir qui accuse sa faiblesse, les jeunes visiteurs se voient réprimandés. Ils s'entendent dire qu'ils sont coupables non seulement de s'être moqués de la vieille femme, mais aussi, pour parvenir à leur fin, d'avoir sacrifié un petit paquet de vie. Ainsi, la vieille femme détourne-t-elle l'attention d'un pouvoir affirmé à l'instrument de ce pouvoir. J'ai toujours désiré réfléchir sur la ou les significations éventuelles, en dehors de son extrême fragilité, de cet oiseau dans la main, mais plus encore depuis que je médite sur le travail d'écrivain qui m'a amené en votre compagnie. Je choisis donc de voir dans l'oiseau la langue et dans la vieille femme un écrivain chevronné. L'écrivain s'inquiète de la manière dont la langue qui lui a été donnée à la naissance et dans laquelle il rêve est manipulée et utilisée quand elle ne lui est pas confisquée à de vives fins. Parce qu'écrivain, elle envisage la langue en partie comme un système, en partie comme un être vivant que l'on contrôle, mais surtout comme une opération, un acte suivi de conséquences. Aussi la question posée par les enfants « Est-il vivant ou mort ?» lui semble-t-elle pertinente. En effet, aux yeux de l'écrivain, la langue est toujours susceptible de mourir, d'être effacée, et donc, cela va sans dire, toujours menacée. Ne peut la sauver qu'un effort de la volonté. Elle pense que si l'oiseau entre les mains est mort, la responsabilité de son cadavre incombe à ses gardiens. Dans son pays, les enfants se sont tranchés la langue d'un coup de dent, réitérant à coups de boulet la voix de l'absence de voix, de la langue handicapée handicapant, de la langue que les adultes ont complètement abandonnée comme moyen de se colter avec le sens, de donner des conseils ou d'exprimer l'amour. Mais l'écrivain sait que les enfants ne sont pas les seuls à avoir choisi de suicider la langue. Ce processus est coutumier chez les puérils chefs d'État et marchands de pouvoir, au langage tellement aseptisé qu'il leur interdit tout accès à ce qu'il leur reste d'humain. Car il ne s'adresse qu'à ceux qui obéissent, à moins que ce ne soit pour forcer à obéir. Le saccage systématique de la langue peut se reconnaître au fait que ses usagers tendent à renoncer à ses vertus maïotiques aussi complexes que nuancées pour menacer et subjuguer. La langue de l'oppression n'est pas une simple représentation de la violence. C'est la violence elle-même. Elle n'est pas une simple représentation des limites de la connaissance. Elle limite elle-même la connaissance. Qu'il s'agisse du langage étatique prompt à occulter ou du pseudo-langage des stupides médias, qu'il s'agisse du langage fier mais fossilisé de l'académie ou du langage scientifique marchandisé, qu'il s'agisse du langage pervers de la loi sans éthique ou du langage conçu pour tenir à distance les minorités, celui dont l'impudence littéraire dissimule les menées racistes, ils doivent tous être démasqués, dénoncés, châtrés, rejetés. Ce sont là autant de variantes d'une langue qui boit le sang, se repaît des vulnérabilités, replie ses bottes fascistes sous les crinolines de la respectabilité et du patriotisme, tout en s'avançant inexorablement vers la ligne de fond de l'esprit descendu à son plus bas niveau. Le langage sexiste, le langage raciste, le langage théiste, tous ces langages caractéristiques du discours autoritaire du maintien de l'ordre ne peuvent pas, non, ne permettent aucun progrès dans la connaissance, ni n'encouragent l'échange mutuel des idées. La vieille femme est parfaitement consciente qu'elle ne parviendra à convaincre ni les mercenaires intellectuels, ni les dictateurs insatiables, ni les politiciens ou démagogues aux frais d'autrui, ni les faux journalistes. Elle sait qu'il existe, et qu'il existera toujours plus, un langage stimulant bien fait pour inciter les citoyens à être armés et à armer, à se faire massacrer et à massacrer dans les centres commerciaux, palais de justice, postes, cours de récréation, chambres à coucher et boulevards, un langage commémoratif exaltant pour masquer la compassion et le gâchis de la mort inutile. Elle sait qu'il y aura aussi inflation du langage diplomatique pour cautionner le viol, la torture, l'assassinat. Inflation d'un langage aussi nouveau que séduisant, destiné à étrangler les femmes, à les gaver comme des oies de leurs mots de transgression impossible à rétracter. Inflation du langage de la surveillance sous le masque de la recherche, du langage de la politique et de l'histoire, planifié pour étouffer la souffrance de millions d'hommes et de femmes. Sans parler d'un langage glamourisé pour exciter les démunis et les frustrés jusqu'à les dresser contre leurs prochains. Enfin, un langage pseudo-empirique arrogant, fabriqué pour enfermer les personnes créatives dans la geôle de l'infériorité et du désespoir. Sous le vernis de l'éloquence, du glamour, de l'érudition, si grisant et engageant soit-il, une telle langue dépérit. Peut-être même, si l'oiseau est déjà mort, son cœur ne bat-il pas du tout. Elle a pensé à ce qu'aurait pu être l'histoire intellectuelle de n'importe quelle discipline, si cette histoire n'avait pas accentué, en y étant parfois contrainte, le gaspillage du temps et de la vie exigé par les modes de rationalisation et de représentation du pouvoir dominant. Les discours meurtriers de l'exclusion bloquant tout accès à la connaissance, aussi bien aux exclus qu'à ceux qui les excluent. Elle ne voulait pas laisser à ses jeunes visiteurs l'impression que la langue ne devrait survivre que pour simplement exister. La vitalité de la langue dépend de son aptitude à peindre les vies présentes, possibles et imaginées de ses locuteurs, lecteurs et écrivains, même si elle a parfois besoin pour son équilibre de remplacer l'expérience. Elle n'est en rien un substitut à cette expérience. Elle se projette vers un lieu où réside peut-être le sens. Un président des États-Unis, méditant sur le cimetière que son pays était devenu, parla jadis en ces termes. Le monde remarquera à peine et ne se souviendra pas très longtemps de ce que nous disons ici, mais il n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait ici. Eh bien, si ces mots simples, aux vertus vivifiantes, ont quelque chose de stimulant, c'est qu'ils se refusent à ramener à une essence la réalité des 600 000 morts de cette guerre raciale apocalyptique, refusant de dresser des monuments, dédaignant le mot de la fin ou le résumé précis, et reconnaissant sa piètre capacité de magnifier ou de dénigrer. Le discours de Gettysburg témoigne d'une déférence à l'égard du caractère irréductible de la vie. C'est cette déférence qui émeut la vieille femme. Cet aveu que la langue ne peut jamais être, une fois pour toutes, à la hauteur de la vie, ni ne devrait l'être. La langue ne peut pas et ne pourra jamais épingler l'esclavage, le génocide, la guerre, les enfermer dans une définition, ni ne devrait aspirer à l'arrogance d'être capable de le faire. Sa force, son bonheur aussi, c'est de tendre vers l'indicible. Qu'il soit humble ou somptueux, qu'il creuse un chemin sous terre, explose ou refuse de sanctifier, qu'il éclate de rire ou qu'il soit un simple cri étranger à l'alphabet, le mot recherché, le silence choisi, bref, l'expression de la langue intacte s'élance vers la connaissance et non sa destruction. Mais qui n'a entendu parler d'une littérature ostracisée parce qu'elle pose des questions, discréditée parce qu'elle est critique, occultée parce qu'elle est alternative? En revanche, combien se scandalise à la pensée d'une langue qui s'est elle-même détruite? Le travail du mot est sublime, pense-t-elle, parce qu'il est créateur. Il engendre un sens qui garantit notre différence, notre humaine différence, ce par quoi notre vie ne ressemble à aucune autre vie. Nous mourrons. C'est peut-être là le sens de la vie. Mais nous inventons la langue. Ce peut être la mesure de nos vies. Il était une fois. Des visiteurs posent une question à une vieille femme. Qui sont-ils, ces enfants ou ces adolescents? Qu'ont-ils fait de cette rencontre? Qu'ont-ils compris de ces derniers mots? L'oiseau est entre vos mains. Une phrase qui ouvre un possible ou qui laisse retomber un loquet? Peut-être les enfants ont-ils compris « Ce n'est pas mon problème ». Je suis une femme, vieille, noire, aveugle. Je n'ai d'autre sagesse que celle de savoir que je ne peux pas vous aider. C'est à vous qu'appartient l'avenir de la langue. Il reste là, debout. Supposons qu'il n'ait rien tenu entre leurs mains. Supposons que leur visite n'ait été qu'une ruse, un truc pour obtenir qu'on leur parle enfin, qu'on les prenne enfin au sérieux, comme ils ne l'ont encore jamais été. Une occasion de faire une brèche dans le monde adulte, d'y entrer par effraction, de chasser les miasmes de son discours, un discours sur eux, pour eux, mais qui ne leur est jamais adressé. Des questions brûlantes d'actualité sont en jeu, y compris celles qu'ils ont posées. L'oiseau que nous tenons est-il vivant ou mort ? Peut-être leur question signifiait-elle « Quelqu'un pourrait-il nous dire ce qu'est la vie, ce qu'est la mort ? » Il n'y a là aucune rouerie ni aucune niaiserie. Il s'agit d'une question simple et directe, digne de l'attention d'une femme pleine de sagesse. Une vieille femme. Et si cette personne aussi sage que vieille, qui a vécu toute une vie et a été confrontée à la mort, ne peut pas non plus y répondre, alors qui ? Pourtant, elle ne répond pas. Elle garde son secret, sa bonne opinion d'elle-même, ses formulations gnomiques, son art désengagé. Elle garde ses distances, les renforce même, et se retranche dans la singularité de sa solitude, dans un espace aussi privilégié que soigneusement élaboré. Elle leur a délégué la charge de la langue. Rien, aucun mot ne suit sa déclaration. Le silence est profond, plus profond que la signification disponible dans les mots qu'elle a prononcés. Il frémit ce silence. Et les enfants, irrités, le remplissent d'une langue inventée sur le champ. « Ne pouvez-vous donc rien nous dire ?» lui demande-t-il, « pour nous aider à nous frayer un passage dans le dossier de vos échecs, comme cette éducation que vous nous avez donnée et qui n'en est pas une si l'on prête une réelle attention à vos actes, non moins qu'à vos paroles, notamment à la barrière que vous avez placée entre sagesse et générosité. Il n'y a pas d'oiseau entre nos mains. Ni vivant, ni mort. Nous n'avons que vous et notre vraie question. C'est donc ce rien entre nos mains que vous ne pouviez supporter de considérer, ni même d'entrevoir ? Avez-vous donc oublié votre jeunesse ? La période de la vie où le langage est d'autant plus magique qu'il n'a pas de signification ? Devons-nous, pour accéder à la conscience, commencer par livrer une bataille que des héros et des héroïnes comme vous ont déjà livrée et perdue ? Ne nous laissant entre les mains que ce que vous avez imaginé ? Votre réponse est ingénieuse, mais son ingéniosité même nous embarrasse et devrait vous embarrasser, vous aussi. Votre réponse est indécente dans la mesure où elle est satisfaite d'elle-même. S'il n'y a rien entre nos mains, ce n'est qu'un scénario inepte écrit pour la télévision. Pourquoi ne pas avoir tendu le bras pour nous toucher doucement de vos doigts ? Pourquoi n'avoir pas attendu avant de nous tenser de la belle manière de savoir qui nous sommes. Méprisiez-vous notre stratagème, notre modus operandi, au point de ne pas voir que nous ne savions comment attirer votre attention ? Nous sommes jeunes, immatures. On nous a serinés tout au long de notre courte vie que nous devions être responsables. Qu'est-ce que cela peut donc signifier dans le monde catastrophique d'aujourd'hui ? Un monde où, comme l'a dit un poète, rien ne demande plus à être révélé puisque tout est déjà exhibé. Notre héritage n'est qu'un affront. Vous voulez donc que nous ayons vos vieux yeux vides et que nous ne percevions que la cruauté et la médiocrité ? Pensez-vous que nous soyons assez stupides pour nous trahir encore et encore en croyant à cette fable de l'appartenance à la nation ? Comment osez-vous nous parler de devoir alors que nous sommes embourbés jusqu'à la taille dans votre passé toxique ? Vous nous banalisez. Vous banalisez aussi l'oiseau qui n'est pas entre nos mains. N'y a-t-il donc pas de riche terreau où ancrer nos vies ? Ni chant, ni littérature, ni poème plein de vitamines, ni histoire liée à une expérience que vous pourriez nous transmettre pour nous aider à démarrer avec force ? Vous êtes une adulte, la vieille, la sage. Cessez de songer à sauver la face. Pensez à nos vies et parlez-nous de votre monde singulier. Inventez une histoire. Le récit, qui nous crée au moment même où il se crée, à quelque chose de radical. Personne ne vous blâmera si vous visez plus que vous ne pouvez saisir, si l'amour embrase vos paroles et les consume au point qu'il n'en reste que brûlure, ou si, avec la circonspection des mains de chirurgien, vos mots ne recousent que les endroits susceptibles de saigner. Nous savons bien que vous ne pourrez jamais le faire correctement, c'est-à-dire une fois pour toutes. La passion n'est jamais suffisante, le talent non plus. Essayez tout de même. Pour notre bien et pour le vôtre, oubliez votre nom dans la rue. Dites-nous ce que le monde a été pour vous dans les lieux sombres comme dans la lumière. Ne nous dites pas ce qu'il faut croire, ce qu'il faut craindre. Montrez-nous seulement la large jupe de la croyance et la maille par quoi se défait la coiffe de la peur. Vous, vieille femme, vous qui avez le privilège d'être aveugle, vous pouvez parler la langue qui nous dise de quoi seule la langue est capable. De voir sans image. La langue seule nous protège de la frayeur où nous jette les choses qui n'ont pas de nom. La langue seule est méditation. Expliquez-nous ce que c'est d'être une femme pour que nous puissions comprendre ce que c'est d'être un homme. Ce qui bouge dans les marges. Ce que c'est de n'avoir pas de maison ici. D'être emporté loin de la seule que l'on ait jamais connue. De vivre à la lisière de villes qui ne supportent pas votre compagnie. Parlez-nous des navires tournants, à Pâques, le dos à la côte, du placenta dans un champ. Parlez-nous d'un chariot où s'entassent des esclaves. Racontez-nous que ces esclaves chantaient si doucement qu'on ne pouvait distinguer leur souffle de la neige qui tombait. Qu'ils savaient, au simple voûtement de l'épaule la plus proche, que le prochain arrêt serait le dernier. Qu'avec les mains faites prière dans leur sexe, ils pensaient à la chaleur, puis au soleil. Levant leur visage comme s'il n'y avait qu'à prendre, se tournant comme s'il n'y avait qu'à prendre, ils s'arrêtent à une auberge. Le conducteur et son compagnon descendent, emportant la lampe et les laissant fredonner dans le noir. Le pissa fumant déchargé sous les sabots du cheval troue la neige, qui grésille et fond, faisant envie aux esclaves gelés jusqu'aux os. La porte de l'auberge s'ouvre. Un garçon et une fille sortent du carré de lumière. Ils grimpent dans le chariot. D'ici 3 ans, le garçon aura sans doute un fusil, mais pour le moment, il porte une lampe et une cruche de cidre chaud. La cruche passe de bouche en bouche. La fille offre du pain, des morceaux de viande et quelque chose de plus. Elle regarde bien en face celui qu'elle sert. Une part pour chaque homme, 2 parts pour chaque femme. Et un regard. Ils lui rendent son regard. Le prochain arrêt sera le dernier. Celui-ci, non. Il est comme réchauffé. Le silence se fait quand les enfants ont fini de parler, jusqu'à ce que la vieille femme rompe le silence. Finalement, dit-elle, je vous fais confiance à présent. Je vous confie l'oiseau qui n'est pas entre vos mains parce que vous l'avez vraiment attrapé. Regardez. Regardez comme elle est belle, cette chose que nous avons faite ensemble.
C'était Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature 1903-2010. 1993,
Toni Morrison. Extrait.
Texte dit par Laure Killing.
Traduction, Bi Formentelli.
Choix des textes et présentation par Eglal Herrera.
Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Clémence Grosse, Bernard Laniel, Étienne Vallès.
Les discours de réception des prix Nobel de littérature sont parus chez Flammarion, en coédition avec France Culture.